Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 11 février 2016.
Double attentat suicide au Nigeria hier. Dernier bilan des victimes, 60 morts et 78 blessés.
Présidentielle au Niger, la Cour constitutionnelle affirme que la mise en liberté provisoire du candidat Amadou ne relève pas de sa compétence.
Il se considère comme un prisonnier politique et la seule alternative qui existe pour lui, c'est de faire sortir grâce aux urnes, en tout cas le 21 février 2016.
Bakary Seydou, chef du groupe parlementaire du MoDem.
Le procureur du tribunal spécial africain requiert la perpétuité pour l'ancien président tchadien Hissène Habré.
RDC, l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces a été fixée au 26 mars par la CENI.
Mais maintenant que c'est prêt et que le gouvernement a accepté de donner l'argent pour organiser, plus ou moins 2 millions pour organiser ça, le corps électoral va être convoqué, installer le bureau définitif et nous pensons là.
Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la commission électorale congolaise.
Réunion à Lomé dans le cadre de la lutte contre la circulation d'armes légères dans les pays du Sahel.
Séoul ferme le complexe industriel intercoréen de Kaesong, symbole de réconciliation entre les deux Corées.
Réunion à Munich du groupe international de soutien à la Syrie. Objectif prioritaire, permettre un accès humanitaire à Alep.
Et avant la minute écho et les sports, voici le journal.
Dans le nord-est du Nigeria, un double attentat suicide a fait plus de 60 morts et 78 blessés dans un camp de réfugiés, a annoncé l'armée hier. Des détails avec Jacques Aristide.
La double attaque a été perpétrée avant-hier, mais une panne téléphonique a empêché la diffusion de l'information, rapportait hier l'agence Reuters. Les faits se sont déroulés dans le camp de déplacés de Dikwa, à 85 km de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, où les islamistes de Boko Haram sont très actifs. Toujours, selon Reuters, citant des sources militaires et humanitaires, les deux femmes kamikazes déguisées en réfugiées se sont infiltrées à l'intérieur de ce camp avant de se faire exploser. Hier, aucun groupe n'avait encore revendiqué le double attentat qui porte toutefois la marque de Boko Haram, d'après les observateurs. D'autant que depuis ces derniers temps, le groupe djihadiste nigérian a souvent recours aux femmes kamikazes et même aux enfants pour commettre de tels actes meurtriers. Mais Boko Haram, qui est affilié depuis quelque temps au groupe État islamique, n'a que très rarement ciblé les camps abritant les personnes déplacées par son insurrection menée depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria. Une lutte armée qui a fait plus de 17 000 morts et provoqué le déplacement de 2,6 millions de personnes. Ces derniers mois, les islamistes nigérians ont également étendu leurs actions aux pays voisins, dont le Cameroun, le Tchad et le Niger.
Au Niger, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt mardi dans lequel elle estime que la mise en liberté provisoire du candidat aux élections présidentielles Amadou ne relève pas de sa compétence. Pour une réaction, Anastasie Toudiech a joint Bakary Seydou, chef du groupe parlementaire du MoDem Falumana, le parti de M. Amadou.
Vous savez, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont des arrêts qui ne font l'objet d'aucun recours. Donc nous n'avons aucun recours à faire. Maintenant, comme nous le disons, pour nous, dans tous les cas, les jeux sont déjà jetés. Et nous avons des hommes, des femmes qui sont déterminés à battre campagne pour que le président Hama puisse être sorti de la prison grâce aux voix des Nigériens. En tout cas, le 21 février, le président Hama va sortir vainqueur des urnes.
Est-ce que vous envisagez une alternative ?
Non, pour nous, la Cour constitutionnelle ayant déjà fait son arrêt, la seule alternative qui nous reste, nous, maintenant, c'est le résultat du vote.
Est-ce que vous avez pu lui parler ?
Oui, aujourd'hui même, j'étais parti le voir. Il est très confiant, il a un moral fort, il se considère comme un prisonnier politique. Et la seule alternative qui existe pour lui, c'est le faire sortir grâce aux urnes, en tout cas le 21 février 2016.
Le procureur du tribunal spécial africain requiert la perpétuité pour l'ancien président tchadien Hissène Habré, jugé à Dakar pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Éric Manirakiza.
Le réquisitoire a duré près de 7 heures. Tour à tour, 4 membres du parquet, dont le procureur spécial Mbake Fall, a réclamé une condamnation à la hauteur des crimes. L'accusation reproche à M. Habré d'être le véritable chef de service de l'appareil de répression pendant 18 ans de règne au Tchad. Une commission d'enquête a identifié 40 000 tués entre 1982 et 1990. Hissène Habré est l'unique accusé. Depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015, Il est resté silencieux et impassible, un comportement que l'accusation a qualifié de lâcheté envers les victimes, plus qu'une stratégie de défense. Celui qui s'est fait passer pour un dieu va réfléchir et savoir que ce qu'il a fait est mauvais, a déclaré Souleyman Gungeng, président fondateur de l'association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré. En détention depuis le 30 juin 2013, il pourra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine, mais aussi interjeter appel en cas de condamnation.
L'administration Obama a engagé d'intenses efforts diplomatiques pour la défense de la limitation des mandats dans la région des Grands Lacs, a fait savoir hier la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield. Des précisions avec Michel Joseph.
Les États-Unis ne pensent pas que les gouvernements doivent changer la Constitution au bénéfice d'un dirigeant pour qu'il reste au pouvoir au-delà du délai prévu, a expliqué Mme Linda Thomas-Greenfield lors d'une téléconférence avec des journalistes africains. Dans le cas du Burundi, nous avons vu les résultats de la décision du président de rester plus longtemps que ce qui est prévu par la Constitution. Nous tentons diligemment de faire comprendre au président Kabila qu'il doit respecter la Constitution. Nous avons fait part de notre grande déception concernant la décision au Rwanda de prolonger le mandat du président. Selon Mme Thomas-Greenfield, Washington œuvre avec des partenaires dans la région et au sein de la communauté internationale pour amener ses chefs d'État à réaliser que les peuples ont besoin de transition pour qu'une démocratie fonctionne. Les vrais leaders mènent leur pays à des transitions, a déclaré la secrétaire d'État adjointe américaine Linda Thomas-Greenfield.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conflit syrien, les grandes puissances vont tenter aujourd'hui à Munich, en Allemagne, de négocier une solution. Des détails avec Lionel Gaïma.
John Kerry et ses homologues d'une vingtaine de pays, dont le russe Sergueï Lavrov, se retrouvent à Munich pour une nouvelle réunion sur la Syrie. Depuis une semaine, Washington accuse Moscou d'avoir en partie torpillé les efforts de paix en bombardant autour d'Alep, bastion des rebelles. Le régime de Damas a repris du terrain et assiège les rebelles dans les quartiers d'Est d'Alep, faisant craindre pour le sort de quelque 350 000 civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 506 personnes ont été tuées en 10 jours et des milliers d'autres ont fui les combats. La pression monte sur Ankara, qui accueille déjà 2,7 millions de réfugiés, pour qu'elle ouvre sa frontière. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a déjà répondu qu'il est hypocrite qu'on leur demande d'ouvrir la porte à un nouvel afflux de réfugiés, sans dire à la Russie « trop, c'est trop ». Cette énième réunion sur la Syrie se tient moins de 2 semaines après la suspension, pour ne pas dire l'échec, des discussions indirectes initiées par l'ONU à Genève.
Washington et ses alliés asiatiques ont riposté au programme balistique et nucléaire nord-coréen en sanctionnant financièrement le régime sans attendre l'issue des négociations au Conseil de sécurité. Des centaines de camions sud-coréens ont traversé ce matin la frontière pour récupérer équipements et biens produits sur le complexe industriel intercoréen de Kaesong que Séoul a unilatéralement décidé de fermer. De son côté, le Sénat des États-Unis a adopté mercredi soir de nouvelles sanctions unilatérales suivant une mesure similaire du Japon. Séoul a qualifié d'inévitable la fermeture de la zone industrielle de Kaesong, présentée à son ouverture en 2004 comme le symbole de la réconciliation. Elle était un des ultimes projets de coopération entre les deux Corées. Le gouvernement sud-coréen a accusé mercredi Pyongyang d'avoir utilisé des centaines de millions de dollars de devises recueillies à Kaesong pour financer ses programmes d'armement. La fermeture du complexe a été jugée injuste par les 124 entreprises sud-coréennes qui employaient à Kaesong 53 000 nord-coréens.
Ici aux États-Unis, le FBI est intervenu hier au 40e jour de l'occupation d'un parc de l'Oregon et a encerclé les derniers occupants, rapporte l'AFP, citant un communiqué de la police fédérale. Les négociations se poursuivent et aucun coup de feu n'a été tiré, dit le FBI. 4 manifestants armés demeurent dans le parc national Malheur. Plus d'un mois après le début de l'occupation, ces occupants antigouvernementaux qui réclament la restitution de terres fédérales au peuple étaient une trentaine au début. Ils sont menés par les frères Ammon et Ryan Bundy, tous deux arrêtés arrêté fin janvier sur une autoroute. L'un des manifestants est mort pendant l'opération, tué par la police, alors que selon elle, il refusait d'obtempérer et aurait approché ses mains d'une poche où se trouvait une arme. 12 personnes ont été arrêtées en liaison avec l'occupation du parc Malheur et 16 ont été inculpées.
Ouverture aujourd'hui de la 66e Berlinale avec 23 productions internationales dans la sélection officielle, dont 19 premières mondiales et 2 premiers films. Au total, 18 longs métrages se disputeront l'Ours d'Or qui sera remis le 20 février. Le jury sera présidé par l'actrice américaine Meryl Streep.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
En RDC, la production de cuivre a baissé en 2015 après 5 années de hausse ininterrompue, selon les chiffres de la Chambre des mines congolaises, repassant en dessous du seuil symbolique du million de tonnes. Selon la Fédération des entreprises du Congo, le secteur minier de la RDC fait face à un environnement difficile. L'année 2015 ayant été marquée par une chute des prix des métaux et matières premières, la plus forte depuis la crise économique mondiale de 2008-2009. Si la RDC a plutôt bien résisté jusqu'à présent à cette nouvelle donne mondiale, l'activité économique du pays devrait être fortement impactée en 2016. En Côte d'Ivoire, le kilo de l'anacarde ou noix de cajou, bord champ, bien séché, trié et ne comportant aucune matière extérieure, a été fixé à 350 francs CFA contre 275 l'année dernière par le gouvernement ivoirien. Un prix plancher obligatoire pour le premier producteur mondial de cajou. En Tunisie, la vente de biens confisqués à l'ex-dictateur Ben Ali et à son clan a rapporté près de 450 millions d'euros à la Tunisie depuis 2011. Après la révolution, la Tunisie a saisi des entreprises, des biens immobiliers, des voitures de luxe ou encore des bijoux appartenant à Ben Ali, à son épouse et à leurs proches, dont de nombreux hommes d'affaires. La vente de ces biens a rapporté 1 milliard d'euros, mais 500 millions ont dû être utilisés pour payer les dettes du clan Ben Ali.
Merci Claire pour cette page économie. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Kenya, Nick Mwendwa est élu président de la fédération.
Exactement, Nathalie. Nick succède à Sam Nyamweya qui s'était retiré de la course juste avant le vote. Le nouveau patron de la FKF a promis de transformer le football kenyan.
Et la FIFA risque-t-elle vraiment la faillite?
Oh, Nathalie, c'est une hypothèse alarmiste évoquée par le Sheikh Salman, l'un des favoris à l'élection pour succéder à Sepp Blatter. Mais malgré des pertes estimées à 90 millions d'euros sur l'exercice 2015, des experts dans l'instance suprême du football affirment que la FIFA peut largement affronter ses échéances financières sans hypothéquer ni son avenir ni ses importantes réserves.
Et un coup dur pour la Fédération internationale d'athlétisme qui perd un gros partenaire, Nestlé.
Oui, le groupe Nestlé a annoncé hier qu'il mettait un terme à son partenariat avec la Fédération internationale d'athlétisme en raison des scandales mêlant corruption et dopage qui affectent l'instance. Le retrait de Nestlé est un premier coup de semence pour l'IAF, mis à mal depuis plusieurs mois par des cas de dopage en Russie qui ont été couverts par de la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'instance.
JO 2016, États-Unis, Damian Lillard rejoint la liste des présélectionnés.
La Fédération américaine de basket a ajouté le meneur de Portland au groupe des 30 joueurs déjà présélectionnés pour les Jeux Olympiques 2016, dont les stars LeBron James et Stephen Curry. Les États-Unis font figure, Nathalie, de grandissimes favoris pour le tournoi olympique qu'ils ont remporté en 2008 et 2012. Et enfin, avec toi Nathalie, les résultats de la NBA d'hier soir.
Oui, une défaite des Lakers face à Cleveland de 111 à 120. Une défaite de Toronto face au Minnesota 112 à 117. Défaite également de Utah Jazz 87 à 100 contre la New Orleans. Atlanta l'a emporté contre les Chicago Bulls 113 à 90. C'est Golden State Warriors. Une victoire donc de Golden State Warriors contre les Phoenix Suns Times 112 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Le président tchadien Idriss Déby Itno briguera un cinquième mandat lors de la présidentielle du 10 avril. Dans son discours d'investiture mardi, il a promis de rétablir la limitation du nombre de mandats présidentiels, un verrou qu'il avait lui-même fait sauter par référendum en 2005. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir à N'Djamena.
Cela procède d'une logique très simple. Hein. En 2005, il fallait absolument sécuriser le pays parce qu'il y avait une menace de certaines personnes, mues par leurs intérêts personnels, d'attenter encore à la sécurité de l'État avec l'aide de certains pays voisins. Donc, ce plan était minutieusement préparé. Et donc, il a estimé qu'il fallait absolument défendre l'unité du pays et la sécurité de nos concitoyens. Il a fait sauter ce verrou. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il n'a pas été démenti. En 2008, cette horde de mercenaires avait déferlé sur N'Djamena. Heureusement, ils étaient repoussés. Et donc, maintenant, depuis 2008 jusqu'à maintenant, eh bien, on jouit d'une certaine tranquillité, sinon d'une paix certaine. Donc, il a estimé que les conditions étaient réunies parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Tchadiens sont bien conscients que quiconque voudrait prendre le pouvoir par la force les trouverait sur leur chemin. Donc, il estime que le moment est propice pour pouvoir maintenant sérénement limiter le mandat pour permettre l'alternance. Tout comme il a promis, s'il est réélu, il voudrait instaurer un État qui tendrait vers un État fédéral.
À ce sujet, justement, maître Padaré, pendant des années, le président a accusé le député Ngarledi Yorongar de vouloir diviser les Tchadiens en prônant le fédéralisme.
Oui, mais vous savez très bien que monsieur le député Yorongar avait fait du fédéralisme son idéologie politique. Or, le fédéralisme n'est pas une idéologie, mais c'est une forme administrative de gestion de l'État. Donc, faire du fédéralisme son idéologie cache une certaine idée de diviser le Tchad. Et à cette époque, vous savez très bien, si on avait instauré le fédéralisme en 93, aujourd'hui, on parlerait des États du Nord, des États du Sud, des États musulmans, des États chrétiens, des États animistes.
Qu'est-ce qui a changé maintenant?
Au jour d'aujourd'hui, les Tchadiens ont pris conscience de l'idée de la nation. Tout Tchadien se dit « je suis d'abord Tchadien » avant d'être Moundan, avant d'être Ngambay, avant d'être Zakhawa. Et qu'il faut sauvegarder cette unité-là. Sans cette unité, je ne serai rien et vous ne serez rien. Donc, il sait qu'à ce moment-là, on peut avoir des États, par exemple des Logone, des États du Mayo-Kébi, des États du DET, mais ils savent très bien qu'ils sont d'abord des Tchadiens. L'idée, c'est de tendre vers le type d'État fédéral à la nigériane ou à l'éthiopienne.
Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, était joint à N'Djamena au Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En RDC, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 provinces nouvellement créées est fixée au 26 mars, selon un calendrier publié par la CENI. Deux jours avant cette annonce, le Premier ministre a déclaré que son gouvernement ne serait pas en mesure de financer la série d'élections prévues en 2016, avec à la clé la présidentielle. Si la chute des cours des matières premières se poursuivait, les gouverneurs doivent être élus au suffrage indirect par des députés provinciaux dont le mandat a expiré depuis longtemps, car élu en 2007 pour 5 ans. Eddy Sango a joint à Kinshasa le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
La première grande date, c'était 10 février 2016. La programmation, à partir de 11 février, débit des dépôts par rapport à ce qui était déjà lancé dans les calendriers du mois de juillet, du 23, et je crois aussi le 8 août 2015. Et cela va durer pendant 10 jours, compte tenu des difficultés et l'étendue du territoire, pour que les gens qui veulent aller postuler puissent aller. La date de vote est fixée au 26 mars 2016.
Est-ce que vous pensez que dans ces jours, les partis et les individus seront prêts d'abord avec les documents pour déposer les candidatures et puis pour les élections?
Les corps corps électoral des gouverneurs, ce sont les députés provinciaux du mandat en cours ici. Ça ne pose pas problème parce que n'oubliez pas que cet électorat était déjà convoqué, mais ce qui bloquait, c'était l'absence de bureau définitif. Comme la loi, à son article 168, dit dans un délai de 21 jours à dater de l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales, la CENI a l'obligation d'organiser les élections. Et c'est ça qui manquait parce que les règlements intérieurs n'étaient pas encore déclarés conformes. Mais maintenant que c'est prêt et que le gouvernement a accepté de donner l'argent pour organiser, plus ou moins 2 millions pour organiser ça, le corps électoral va être convoqué, installer le bureau définitif et nous passons là.
Vous ne craignez pas que ces résultats soient rejetés par le fait que ceux qui auront élu ces autorités des provinces n'ont plus de mandat?
Oui, tout ça, ce sont des débats juridiques. Et je vous dis que la CENI a obligation, conformément à l'article 211 de la Constitution, d'organiser les élections conformément au texte. Je vous dis qu'il y a une loi. Le fait que les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs élus en 2007 soient là, ça ce n'est pas un problème de la CENI. Je vous dis qu'il y a aussi un article de la Constitution pour chaque cas qui dit que la législature se termine par fin de mandat, décès de quelqu'un, ceci, jusqu'au remplacement de l'autre. Ça, ces débats-là, on doit les passer ailleurs. Nous, nous restons tant qu'ils sont là. Il y a une loi de programmation d'installation de nouvelles provinces qui les recommande, d'une part. D'autre part, il y a la Cour constitutionnelle qui est censée juger de la constitutionnalité de la chose, qui a pris un arrêt demandant à la CENI d'organiser ces élections-là.
Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante en RDC.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Des représentants de 9 pays du Sahel sont réunis à Lomé pour valider un rapport de l'ONU sur la circulation illégale de plus de 8 millions d'armes légères. Timothée Donangmaï a joint à Lomé Olato Kounbo-Igué, directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique.
Depuis que nous avons connu une crise au Mali, il y a une stratégie qui a été mise sous pied par les Nations Unies d'essayer de répondre à cette problématique d'insécurité dans la région du Sahel. Et c'est dans ce cas que nous avons eu à faire une étude pour s'inquiéter sur la circulation des armes légères et des petits calibres pour avoir les preuves scientifiques sur l'emploi de ces faits et pour avoir la possibilité de faire des actions pour remplir tous les vides, soit juridiques, soit institutionnels, soit des capacités des acteurs de pays. Donc le but de cette conférence, c'est pour valider le rapport de cette enquête qui a été faite.
Est-ce que c'est un problème qui se concentre dans certaines zones du Sahel ou bien est-ce que c'est un phénomène général?
C'est un phénomène général. Selon les participants venant de 9 pays, y compris les pays limitrophes, jusqu'à Mauritanie, nous avons des gens de Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et tout. Il y a un constat que c'est généralisé dans cette région.
Qu'est-ce qui se fait actuellement pour essayer de retirer ces armes de la circulation?
À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions par les acteurs différents. Au niveau des Nations Unies, dans le cadre de notre stratégie intégrée, nous, au niveau de l'ONREC, nous avons cette responsabilité d'aider les États membres à avoir plus de capacités pour faire le marquage, le stockage et le traçage des armes. Dès que les pays ont plus de capacités de stocker leurs propres armes, maintenant, on peut tracer les autres types d'armes qui circulent dans la région. Il y a des autres agences qui travaillent sur le volet économique pour essayer de convaincre les gens de donner leurs armes pour avoir les avantages. Parce que ici, on dit que c'est un problème économique aussi. Donc, maintenant, il faut retirer les armes pour leur donner une opportunité pour avoir le travail ou commencer un type de business ou entreprise pour avoir les moyens économiques.
Olato Kounbo-Igué, directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
L'opération Flintlock 2016 a été lancée au Sénégal dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voici un reportage de notre correspondante à Dakar, Sorna Natambaye.
La motivation principale de l'exercice Flintlock, mais c'est la lutte contre ces organisations extrémistes violentes, pour ne pas dire contre le terrorisme.
C'est dans un contexte où le terrorisme parvient à duper les systèmes de défense de plusieurs pays que les États-Unis et leurs partenaires ont décidé de lancer l'opération Flintlock 2016. Lieutenant-colonel Amadou Ndir, adjoint chargé des opérations du commandement de la zone militaire numéro 4.
Il a été mis sur pied cette plateforme Flintlock pour intégrer les efforts de plusieurs partenaires africains, américains, européens et même des agences donc en charge de la sécurité, voire même du développement comme l'USAID, pour maximiser les chances de venir à bout de ce fléau.
Du 9 au 29 février, 1700 soldats issus d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique vont s'entraîner au Sénégal et en Mauritanie. L'opération, comme chaque année, est dirigée par le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. En ce qui concerne le Sénégal, les entraînements ont débuté dans la région orientale. Explication avec le lieutenant-colonel Ndir.
Pour ce qui est de la zone militaire numéro 4, vous avez un centre chargé de coordonner les actions de formation et d'entraînement à Bakel et à Kédougou, de superviser le soutien logistique au profit des unités qui sont engagées dans cet entraînement. La présence de partenaires occidentaux qui sont engagés au même titre que nos propres troupes, principalement pourvoyeurs d'expertise, et que chacun prenne quelque chose donc de l'autre.
Pour les responsables de la logistique, les populations doivent également apporter leur contribution dans la prévention contre le terrorisme. Lieutenant-colonel Babacar Sani.
Dans votre quartier, vous voyez des gens qui sont étrangers. Ce n'est pas une question de dénonciation. Allez vers les forces de sécurité pour éviter ces gens-là à faire leur action. Parce que nous, on ne peut pas être partout.
Les exercices vont servir à renforcer les capacités des troupes impliquées. L'autre finalité, c'est surtout d'instaurer une interopérabilité entre les différentes unités. Celles-ci pourraient bien être amenées à agir sur le même terrain. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
Deux Camerounais qui étaient retenus en captivité par Boko Haram au Nigeria sont rentrés au Cameroun après avoir réussi à s'échapper. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté ici par Jacques Aristide.
Goyo Minka, l'un des deux ex-otages, raconte le cauchemar qu'il a vécu récemment. L'homme de 32 ans affirme que dans la nuit du 23 janvier, 15 présumés combattants de Boko Haram, lourdement armés, se sont emparés du bus à bord duquel ils voyageaient. Cela s'est passé près de Kousséri, ville de l'extrême nord du Cameroun. Les ravisseurs l'ont ensuite emmené, de même que cet autre homme, au Nigeria. Pour lui, il était évident qu'il était sur le territoire nigérian, parce que, soutient-il, ces kidnappeurs parlaient anglais et kanouri, des langues parlées dans le nord du Nigeria.
On était dans la maison au Nigeria. Avant, ils ont d'abord mis les chaînes. Ils ont demandé une somme de 2 millions de francs. On a donc tiré le feu. On a attendu dans la nuit. Nous sommes sortis. On était vraiment en brousse. Et on avait toujours peur que non, ces gens pouvaient toujours venir. Je remercie beaucoup l'armée camerounaise. Je les dis toujours de continuer à faire leur travail.
Guillaume relate que les autres otages et lui ont été enchaînés pendant 2 semaines. Il affirme qu'ils arrivaient parfois à avoir un repas seulement lorsque certains des captifs parvenaient à voler du riz et de la viande. Des fois, dit-il, certains otages nigérians et camerounais étaient transportés en dehors du camp pour voler. C'est ainsi qu'il a trouvé le moyen pour fuir avec Sylviane Radim, un autre camerounais en captivité. Des soldats camerounais les ont ensuite trouvés dans la forêt et les ont emmenés dans la ville de Maroua. Après identification, ils ont été remis au gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Mijayawa Bakari. Sylviane Radim affirme de son côté que durant leur période de captivité, leurs ravisseurs les ont contraints à attaquer les gens à l'aide de machettes. Le mois dernier, Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement camerounais, a déclaré qu'environ 5000 bœufs et d'autres animaux ont été volés depuis que le pays a débuté la lutte contre Boko Haram il y a 3 ans. Pour Bakari, Boko Haram a été affaibli depuis et le groupe a recours à davantage de kidnapping.
Washington Forum cette semaine, le chômage chez les jeunes en Afrique. Les diplômés affichent un taux de chômage supérieur à celui des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. De la Tunisie au Tchad, ce manque d'emploi est-il une bombe à retardement pour la société? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était Daryl Smith. Et avec vous, à la présentation, Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon jeudi à toutes et à tous.